Ardigan. Ardigan présente La conquête de l'aigle. Les aigles de l'Empire, tome 2, de Simon Scarrow, traduit de l'anglais Grande-Bretagne par Benoît Domis, lu par François Montagu. À mes professeurs, sans lesquels rien n'aurait été possible. Chapitre 1er.
Je ne donne pas cher des chances du grand, marmonna Macro.
Pourquoi, centurion ?
Regarde-le, Cato, il n'a que la peau sur les os, il ne fera pas long feu. Tu as vu son adversaire ?
De l'autre côté de l'arène de fortune, un prisonnier trapu acceptait à contre-cœur un glaive et un petit bouclier, des armes qui ne lui étaient pas familières. Il toisa son opposant. Cato suivit son regard. Seul un pagne en cuir saignait les reins du breton élancé. Un légionnaire lui tendit un trident qu'il soupesa avant d'ajuster sa prise. Manifestement, le maniement des armes ne lui était pas étranger et il se déplaçait avec une certaine assurance.
« Je vais miser sur le grand, » décida Cato.
Macro se retourna.
« Tu es fou ? Tu l'as vu ?»«
Oui, centurion. » Mon opinion est faite, je parie sur lui.
Ton opinion ?
Le centurion haussa les sourcils. Tout frais débarqué de la maison impériale à Rome, le jeune homme n'avait rejoint l'armée que l'hiver dernier et s'exprimait déjà comme un vétéran.
Comme tu voudras, ajouta Macro.
Secouant la tête, il s'installa pour assister au combat qui marquait la fin de ces jeux organisés par Vespasien, le légat de la 2e Légion, dans le petit vallon situé au milieu du camp de marche. Demain, les 4 légions et leurs troupes de soutien repartiraient sous le commandement du général Plautius, avec pour objectif la prise de Camulodunum avant l'automne. Si la capitale de l'ennemi tombait, la coalition de tribus bretonnes menée par Caratacos, roi des Catuvelloni, volerait en éclats. Les 40 000 hommes placés sous la responsabilité de Plautius représentaient la totalité de l'effectif que l'empereur Claude pouvait consacrer à son audacieux projet de conquête des îles brumeuses au large de la Gaule. Dans l'armée, tous avaient conscience de la vaste supériorité numérique des Bretons. Mais pour l'instant, l'ennemi était dispersé. Si les Romains parvenaient à frapper un grand coup avant que ce déséquilibre ne joue en leur défaveur, la victoire serait à portée de main. Bien que tous brûlent du désir d'avancer, les soldats fatigués se réjouissaient de cette journée de repos et du divertissement. 20 Bretons, diversement armés, avaient dû s'affronter. Pour rendre les choses plus intéressantes, on avait tiré au sort les adversaires par deux dans un casque de légionnaire. Le déséquilibre parfois obtenu avait ajouté du piment à certaines rencontres. La dernière semblait faire partie du lot. Le porteur d'aigle, qui animait les jeux, approcha à grandes enjambées du centre de l'arène et exigea le silence à grand renfort de signes des bras. Ses aides se précipitèrent pour prendre les ultimes paris, tandis que Cato s'asseyait à côté de son centurion. Il avait misé 1 mois de solde à 5-1. Son champion n'était pas le favori, mais s'il l'emportait, Cato empocherait une coquette somme. Macro avait parié sur le prisonnier musclé, armé d'un glaive et d'un bouclier. Beaucoup moins d'argent, à une cote nettement plus faible, ce qui reflétait l'évaluation des parieurs.
« Silence ! Silence, vous tous !»
brailla le porteur d'aigle. En dépit de l'atmosphère bon enfant, les légionnaires retrouvèrent automatiquement leur sens de la discipline. Les quelques 2000 hommes qui s'égosillaient et gesticulaient se turent, attendant la reprise du spectacle.
« Pour ce dernier combat, j'accueille à ma droite un épéiste. Il est bien bâti et c'est un guerrier accompli, selon ses propres dires. »
Le public lança des huées.
« S'il était si fort, pourquoi le Breton était-il leur prisonnier, réduit à se battre pour sa vie ?» L'épéiste leur adressa